Mesdames et messieurs, bonjour. Il manque, il nous manque, il était là chaque année. L'an dernier, il n'y a pas eu de foire. Et cette année, il n'y aura pas de Denis Tillinac non plus. Et il ne sera plus jamais là. Il restera toujours là, puisque son œuvre demeure. Nous allons parler ensemble avec Jean-Paul Kaufmann, avec Eric Neuhoff et Guillaume Cyr, du Tillinac écrivain. Et c'est une rencontre que François David a souhaitée. François David, qui est le commissaire de la foire. Et François va nous expliquer, avant de me donner sa place, va nous expliquer ce qui a prévalu et à l'organisation de cette rencontre.
Bonjour à toutes et à tous. Comment vous dire, tous ceux qui sont dans cette salle, et j'en connais beaucoup qui étaient bien plus proches que moi de Denis Tillinac, même si avec Denis on se connaît depuis 78, je pense 77, on mesurait, et depuis le début de la foire, moi je ne cesse d'y penser, à la place que Denis avait pour nous et avait pour cette manifestation, dont il n'a manqué aucune édition. Lui qui a été avec l'école de Brive, et il y a une photo Camille Lamontagne qui est extrêmement émouvante, hein, où on voit le jeune Denis avec Peramore, Michelet, Signol et Tutti Quanti présents. Il s'agissait de faire une rencontre qui ait du sens, et non pas de se réunir pour se réunir. Denis aurait détesté ça, de même qu'il aurait détesté tous les honneurs. Enfin, vous le connaissez aussi bien que moi, quoi. Voilà. Vos visages, amis, me disent que je dois être bref, parce que ce que je vais dire, vous le pensez. On a cherché, puisque c'est une manifestation littéraire, et c'est ce que m'a soufflé Eric Neuhoff, que je remercie vraiment de cette intuition, de parler de Denis l'écrivain, parce que Denis était un grand écrivain. Alors chacun préférera tel ou tel ouvrage, hein. Pour moi, l'ouvrage qui m'a marqué, en plus de Spleen en Corée, c'est Maison de famille, qui pour moi est un très beau livre. Et donc le but, c'est pendant une heure, non pas de commémorer, mais d'aller au cœur de ce qu'était l'écriture de Denis, qui pour moi est la meilleure façon de rejoindre Denis écrivain. Pour le Denis copain, pour le Denis des troisième mi-temps, pour le Denis polémiste, pour le Denis amateur de rugby, il faudrait une journée pour en parler. Donc voilà un peu l'esprit, et je vous remercie d'être venu pour lui rendre cet hommage. Et merci à vous, merci à Jean-Paul Kaufmann qui a dû changer de train et puis qui est là. Et puis il vous dira pourquoi le petit jeune à côté dont on entendra reparler il était important qu'il soit là.
Merci François. Alors le problème, c'est qu'on n'a pas assez de chaises, et si je dois m'asseoir, il faut que tu t'en ailles. C'est un peu le problème. Voilà. Et Madame Hidalgo l'appelle. À tout à l'heure, j'espère, François. Messieurs, à vous. D'abord, on va expliquer effectivement la présence de Guillaume, dans la vie de qui Denis a eu un rôle extrêmement important. Mais auparavant, j'aimerais demander à Eric Neuhoff et à Jean-Paul Kaufmann, qui étaient alors pour le coup des compagnons et peut-être même de la troisième mi-temps, pas mal, comment vous vous êtes rencontrés ?
Moi, je l'ai rencontré à cause de ses livres, enfin d'un de ses premiers romans, sinon son premier qui s'appelait Le rêveur d'Amérique, qui m'avait beaucoup amusé, qui était l'histoire d'un jeune étudiant en mai 68 qui était à Bordeaux, et il y avait la grève et il avait son Solex, il prenait les autoroutes vides sur son deux roues en chantant du Elvis Presley à tue-tête. Et j'avais rencontré Denis à un déjeuner à côté de chez Robert Laffont, rue des Canettes. Et on s'est très bien entendu, et puis je l'ai revu jusqu'à aujourd'hui, puisque pour moi il ne m'a pas quitté. J'ai lu tous ses livres, j'ai suivi tout ce qu'il a fait, et c'était un très bon ami, un très bon écrivain, un bon éditeur aussi, même si je n'aime pas dire du bien des éditeurs. Et c'est quelqu'un qui nous manque, dont j'entends encore le rire rugueux, tonitruant, quand il racontait quelque chose d'amusant. Et avec lui, la vie avait toujours des couleurs originales et inattendues.
Alors moi, j'ai connu Denis. J'étais à l'époque journaliste dans un journal de gauche, Le Matin de Paris, qui a disparu. Et j'avais écrit un compte-rendu très enthousiaste de... Enfin, je pense que son premier livre, quand même, Spline en Corrèze, et qui a été publié en 79 aux éditions des Autres, une maison d'édition aussi qui a disparu. Donc, il m'a téléphoné, il m'a remercié en me disant « ça serait bien qu'on puisse se voir ». Alors je lui ai dit « d'accord, moi je suis prêt à venir en Corrèze ». Il était à l'époque localier à La Dépêche, à Tulle. Mais il faut que je trouve une raison de ce déplacement auprès de mon journal. Alors il faudrait me trouver une histoire intéressante. Et quelques jours plus tard, il m'a appelé en me disant « là, j'ai une histoire, ça pourrait vous intéresser ». On se vous voyait, on se connaissait pas à l'époque. Et alors c'était une histoire d'un... Je m'en souviens encore, c'était un cadavre, un mort qui avait disparu d'un caveau. Donc, il m'a accueilli à la gare de Brive. Tout commence toujours à la gare de Brive, dans ses romans notamment d'ailleurs. Et donc on a passé une journée ensemble. Alors bon, je peux pas dire que cette histoire-là était l'histoire du siècle, mais Denis avait mis une telle... Enfin, je traînais un peu des pieds. Et lui, avec son enthousiasme, son ardeur, cette façon de questionner, d'interroger les gens, les membres de la famille, si bien qu'au bout d'un certain temps, on avait une histoire à la François Mauriac, quoi, le nœud de vipère en Corrèze. Alors, moi, ce qui m'avait séduit, en effet, c'est là, ce jour-là, qu'a commencé notre amitié, une amitié donc de 40 ans. Alors, moi, ce qui m'avait séduit chez lui, on avait beaucoup ri. Je crois que c'est une des personnes qui, de ma vie, m'a fait le plus rire. Il y en a deux ou trois, et pendant 40 ans, c'est pas facile. C'était... Son sens, comment dire, son sens du cocasse, son sens de la dérision, de l'irrespect, puis cette façon qu'il avait d'interroger les gens, d'être, enfin, ce questionnement perpétuel. Il était jamais en repos, Denis. Et il y avait aussi, c'est peut-être ça aussi qui m'a séduit, cette curiosité, cet appétit intellectuel là, qui mettait dans toute chose, et cette sorte de vivacité d'esprit. Et voilà, bon, c'est comme ça que tout a commencé. Après, on a passé un certain nombre de vacances ensemble, et c'est une amitié qui a eu parfois des hauts et des bas, mais bon, c'est tout à fait normal.
En 40 ans, comme dans tous les couples, en fait.
Exactement.
Guillaume, Jean-Paul, vous avez un micro juste dans votre fauteuil également. Ça permettra à Eric de rebondir. Alors Guillaume, quel est votre lien particulier avec Denis, vous qui êtes le Benjamin de cette assemblée?
Alors, moi, le premier Télinac que j'ai rencontré, c'est un de ses fils, Henri. Qui était à Toulouse, qui avait le même âge que moi, et c'est en le rencontrant, en le croisant plusieurs fois et en entendant parler aussi du coup de son père que j'ai découvert ses romans. Je les ai lus dans le désordre parce que c'était en 2005 et j'ai à peu près tout lu à ce moment-là. Enfin, je me retrouvais dans ses romans qui étaient pleins et de joie et de mélancolie, et où la joie et la mélancolie étaient comme deux choses, quoi, comme deux états, vapeur et glace de l'eau. Et je rêvais d'écrire à ce moment-là. J'essayais de trouver la voie d'un premier roman, et naturellement, quand je l'ai terminé, ce premier roman-là, je l'ai envoyé au Denis éditeur. Mais là encore, c'est le Denis éditeur et le Denis auteur étaient, à mon avis, le exactement le même, alors que le Denis polémiste, celui qui écrivait dans la presse, moi, je m'en sentais plus éloigné. Enfin, c'était pas exactement ce vers quoi j'allais en lui envoyant mon roman. Et là, il m'a ouvert les bras. Et pour le jeune auteur que j'étais, j'avais même pas 20 ans à ce moment-là. C'était une chance immense. Et j'ai publié donc mon premier roman en janvier 2007 aux éditions de la Table Ronde. Et Éric Nehoff a fait à ce moment-là, que je ne connaissais pas, un beau papier, sans doute grâce à Denis qui lui avait envoyé. Et j'étais très heureux de ça, de ce patronage-là, parce que justement, mon projet était de ne pas écrire une littérature qui aurait été politique, une littérature à message, une littérature théorique. Je voulais écrire je voulais écrire comme lui, en fait. Pas la même chose que lui, mais avec cette même exigence et cette même joie. Et je pense que le Denis Tillinac écrivain était très joyeux et mélancolique en même temps, vraiment. Et je crois que c'est ce qu'il y a de beau aussi dans ce qu'on a appelé les Hussards, hein, qui est, à mon avis, moins une école politique qu'une école mélancolique, en fait. C'est une manière d'être mélancolique dans la littérature et de se donner à la littérature entièrement.
Et vous voilà cette année pris de la ville de Brive, ce qui est un magnifique clin d'œil à Denis Tillinac.
Ça l'aurait fait marrer, ouais.
À propos de Hussard, Éric, vous faites partie aussi de cette cavalcade de néo-Hussard.
Ouais, ou nouveau Hussard, mais enfin, là, c'est, oui. À l'âge qu'on a, c'est plutôt les Hussards blais, hein, maintenant. Mais oui, c'est une invention de l'événement du jeudi, un journal de gauche, où Jean-Paul a dû travailler, forcément, non ?
Bah oui.
Voilà. Et c'est une invention qui vient de loin. C'est une idée de Bernard-Henri Lévy de rassembler Denis, Kovelart, Besson et moi, je crois.
Patrick Besson.
Ouais. Oh, et pas Philippe, n'exagérons pas. Et ils avaient lancé ça, puis l'étiquette a perduré. Elle se décolle un peu parce qu'elle est toute abîmée, mais elle est toujours là. Et je ne sais pas pourquoi, là, tout d'un coup... J'ai eu un souvenir qui m'est revenu, c'est qu'il y a 30 ans ici, le lien de Denis avec cette foire était vraiment très intime et très fort. Et je me souviens de cette édition du salon où tout le monde se marrait parce qu'un soir, Serge Laine, sa table, avait dit « Je vais vous raconter la mort de Denis Tillinac ». Et Denis était là, il était flambant. Puis maintenant, avec ce qui s'est passé l'an dernier, repenser à ça... Ça m'amuse et ça m'émeut aussi. Et Lens lui dit, mais avant ça, Alain Delon va mourir. Et Alain Delon arrive au paradis. Saint-Pierre l'accueille. Lui dit, nous sommes très flattés de vous avoir. Nous regardons tous vos films. Vous êtes notre idole. Votre chambre est prête. Et un petit séraphin emmène Delon à la fameuse chambre, la 27. La porte s'ouvre. Et là, Delon s'arrête sur le seuil un peu interloqué parce que c'est... une chambre de bonne minable avec un soupirail plein de toiles d'araignée, de la poussière par terre, un lavabo glaireux avec un robinet qui goûte, un lit minuscule avec des draps crasseux, et dessus, nue et visiblement offerte, une vieille femme édentée aux cheveux sales. Et à ce moment-là, une voix vient d'en haut et dit « Alain Delon, vous avez tout eu dans la vie, les femmes, la fortune, le succès, et avant d'aller vraiment au paradis, vous allez passer 6 mois dans cette chambre ». Lens continue son histoire en disant « Bien des années plus tard, Denis arrive au paradis, Saint-Pierre l'accueille, lui dit « Nous sommes très flattés de vous avoir, regardez, tous vos livres sont dans la bibliothèque, votre chambre est prête, on l'emmène, la 48, la porte s'ouvre, et là Denis s'arrête, complètement bluffé, c'est Versailles, des baies vitrées qui donnent sur des jardins à la française, du marbre partout, une baignoire avec des robinets en or gigantesques, un lit circulaire avec des draps en satin et dessus, nue et visiblement offerte, Monica Bellucci. Et à ce moment-là, une voix vient de haut et dit « Denis Tillinac, vous avez tout eu dans la vie, mais maintenant... » Donc, et toute cette édition, les gens allaient voir Denis en lui disant « Vous savez comment est mort Alain Delon ?» Et ça m'est revenu là à cette table et cette histoire. Et pour moi, Denis, c'était ça, c'était l'éclat de rire. Je suis un peu comme Jean-Paul. C'est quelqu'un qui me faisait mourir de rire. Ça, il y avait cet éclat de rire, en général suivi de sa toux de fumeur. Et c'était quelqu'un qui trouvait l'angle marrant à toutes les choses. C'est que il était hyper actif, il dormait jamais, il était tout le temps en train de lire, d'écrire. Et d'avoir un sens de la formule à la fois sur le papier et dans la vie qui était assez sidérant. Et puis un œil original, c'est que il trouvait pas du tout que la vie était ennuyeuse, même dans les moments un peu tristes. Et il voyait le côté gag et il avait à la fois un œil et une oreille. Je me souviens, on l'avait fait travailler à Madame Figaro, il s'occupait des grands entretiens et il ne prenait pratiquement aucune note pendant 2 heures et il retranscrivait toute l'interview comme ça. C'est Truman Capote faisait ça aussi. Et il n'y a jamais eu de problème avec aucune des personnes rencontrées, sauf une fois, évidemment, mais c'était Jean Edernalier.
Voilà. Alors, vous parlez sous le contrôle de sa femme, Monique Tillina, qui vous fait le cadeau d'assister à cette rencontre. Effectivement, donc, un homme toujours hyperactif, ouais. Toujours extrêmement vivant.
Un grand vivant, oui. C'était vraiment quelqu'un qui remuait la vie et le quotidien. C'était, même quand on était dans sa voiture au volant, on était quand même très attentif parce qu'il conduisait comme un dingue en tapant sur le volant et en chantant du Elvis Presley. C'était d'ailleurs un de mes points de désaccord avec Denis, c'est qu'il aimait Elvis, mais pas tellement Sinatra. Alors on s'engueulait là-dessus.
Oui, des hauts et des bas, donc, hein, comme disait Jean-Paul. Guillaume a parlé de mélancolie tout à l'heure. Est-ce que c'est un qualificatif qui, certes, correspond au hussard, mais est-ce que vous diriez que l'œuvre de Denis, qui est très vaste, hein, vraiment, et très fournie, s'applique, que ce qualificatif s'applique à son œuvre, pas à l'homme, à l'œuvre?
Ah ben, bien sûr, parce qu'il était romancier, là. La mélancolie et la nostalgie, c'est un peu la farine du boulanger pour quelqu'un qui écrit des romans. Et dès ses premiers textes, il y avait ça, le regret de la jeunesse, cette France enfuie qu'il aimait beaucoup, le souvenir des Trente Glorieuses, le Solex dont je parlais, les disques vinyles, les jukebox. Ça, c'était Denis, oui, c'est pour ça qu'il était romancier. Et puis là aussi, il avait un don très exact pour choisir les adjectifs, ce qui est la chose la plus difficile à faire, parce que l'adjectif, ça peut foutre une phrase en l'air s'il est mal choisi. Et lui avait toujours une trouvaille qui n'appartenait qu'à lui. Et moi, un des textes de Denis que je préfère, c'est une quinzaine de pages vraiment miraculeuses qui s'appelle Spleen à Doménil, où il raconte son enfance dans le 12e arrondissement de Paris, 195 avenue Doménil. Et c'est un texte où il n'y a pas une virgule à toucher, qui est d'une beauté. Et il y avait quelque chose de terriblement français dans la prose de Denis, et dans le bon sens du terme. Et c'était sa langue naturelle.
Et j'ai une anecdote à ajouter sur les adjectifs. Un jour, je me souviens, il me dit « Tu mets trop, t'en mets trop ». Et pour m'illustrer ça, il me dit « T'as fait ton Grainville, là, tu les as tous mis ». Et ça m'a amusé parce que justement il apprenait à ça, il fallait resserrer sur un, il me disait garde-en un mais lequel tu choisis. Et c'est vrai qu'il avait ce don là. Ces livres qui sont des livres souvent assez courts, c'est parce que c'est des livres très précis.
Alors justement, comment qualifieriez-vous, profitez-en peut-être pour tous éteindre votre téléphone, ça fait le deuxième qui sonne, merci. Comment qualifieriez-vous justement son style? Est-ce qu'il s'est ouvert auprès de vous, d'ailleurs l'un des trois, pour parler de c'était pour le public essentiellement, pour parler de sa manière d'écrire, voilà, de son rapport à l'écriture? Est-ce que c'était des conversations que vous aviez ensemble?
Oui, alors, bon, moi, comment définirais-je son style? Souplesse et agilité, un côté très solide et à la fois feutré. Et puis il y a cette musique, on pourrait dire, oui, cette musique tillinakienne. Il y a une fluidité, un sens aussi de la brièveté, hein, le trait. C'est là aussi, si on devait définir, enfin c'est difficile de définir Denis parce que c'est un gémeau Denis, hein. Et moi je crois pas beaucoup aux significations de, des signes zodiacaux, mais lui il représente vraiment le gémeau, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'insaisissable, un homme multiple, et dans ses livres aussi, on peut le dire d'une certaine façon, un être pluriel, toujours en mouvement, Eric l'a dit tout à l'heure, et donc on ne peut pas l'attraper, Denis, parce qu'on ne peut pas le qualifier mélancolique, oui, c'est vrai, mais il y a le contraire aussi, il y a un côté extrêmement jubilant, et c'est ça qui est très difficile quand on parle de Denis, c'est que, bon, évidemment, l'homme et l'œuvre se confondent, certes, mais Denis a une façon très particulière, à mon sens, d'être présent dans ses romans, dans ses livres. On le voit avec quelque chose aussi qui, puisqu'on parle du style, le définit. C'est, enfin, pour moi, c'est la verve. La verve, et puis cette abondance, cette espèce de d'abondance joyeuse, pas mélancolique, et cette façon aussi de mettre de l'énergie dans les mots, hein, et voilà, c'est très difficile, et c'est pour ça que définir cette musique tilinakienne, c'est quelque chose qui coule parfaitement. Alors, je ne sais pas, lui, il adorait, enfin, on en parlait de temps à autre, lui, il aimait tous ces grands moralistes du 18e, genre Vauvenargues, etc. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce livre qu'on cite assez rarement, que j'ai lu très attentivement, qui s'appelle « Considérations inactuelles ». Ce sont des aphorismes, hein, où on reconnaît là justement le sens de la brièveté, là, cette espèce de façon de condenser, de résumer, de ramasser, et en évitant tous ces adjectifs, ce gras. Il n'y avait pas de gras. C'était toujours une écriture maigre, et en même temps, là aussi on est peut-être dans la contradiction, dans une forme de délectation, parce que c'est vrai, on se délecte à lire Denis Tillinac, et là aussi on va revenir à ce côté insaisissable. Il y a l'auteur des dictionnaires amoureux du catholicisme de la France, de Gaulle aussi, oui, et puis il y a ses romans. Bah, on peut dire que c'est la même personne, mais c'est absolument pas la même musique. C'est pour ça que, encore une fois, Denis nous échappera toujours.
Allez-y, les garçons derrière, c'est pas facile, hein.
Non, mais ce qui était bien, c'est que ça n'était pas quelqu'un avec qui on parlait de littérature, des affres. De l'écriture, hein. Il savait très bien que c'est pas parce qu'on écrit des livres qu'il faut emmerder le monde avec ça, hein, lui. Et il préférait beaucoup d'autres choses, et puis il savait qu'il y avait un peu d'obscénité à se plaindre.
Enfin, vous étiez quand même tous romanciers, donc ça aide à se faire un sujet commun.
Bah, oui, mais enfin, on était des gens qui aimaient bien ce qu'on faisait, en tout cas la plupart du temps. Et ça compte, mais il n'y a pas besoin d'en parler. Moi, je me souviens que Denis, ce qui me bluffait chez lui, c'était sa capacité de travail. Il pouvait s'enfermer pendant 15 jours dans sa maison là, à Aurillac, avec ses petits cahiers d'écolier et son bic vert, et remplir des pages et des pages en travaillant 12 heures par jour pour finir un bouquin. Et ça m'a toujours sidéré. C'est quelqu'un qui avait une capacité de travail, un don pour ça. C'était naturel chez lui. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Jean-Paul. Moi, je trouve que même les articles, la polémique, il y a un petit peu la même encre que dans les romans. Il y a ce style, cette clarté. Et puis, la polémique, pour lui, c'était aussi une façon de fouetter le sang. Hein. C'était, ouais, de ferrailler. C'est quelqu'un qui était très, très ouvert. Hein. On le voit toujours très français, aimant D'Artagnan, les trois mousquetaires. Mais c'est quelqu'un qui aimait beaucoup Norman Mailer, par exemple. On ne sait pas des choses comme ça. Et il pouvait défendre Simenon et puis aussi s'intéresser à l'Afrique. Oui, à la télé. Oui, oui, ben il était très très cultivé. Hein, il admirait beaucoup les intellectuels, alors que son talent, lui, c'est le roman. Mais il pensait par moments, ces moments peut-être de faiblesse, que la pensée justement était plus importante que la fiction. Mais au bout du compte, ce sont ces romans qui vont rester comme Maison de famille et ces choses-là.
Quels sont justement les livres de... Allez, un exercice idiot. Si vous deviez n'emporter qu'un seul des romans, restons sur le roman, de Denis Tillinac, ce serait lequel ?
Moi, c'est Spleen en Corrèze, le premier, en fait, et qui a été réédité là avec à la petite Vermillon, avec une préface magnifique qui s'appelle 20 ans après, je pense. Moi, c'est mon texte préféré. Bon, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, mais si j'en prends qu'un seul, je prends celui-là.
Pourquoi ?
Parce qu'il y a tout, en fait. Il y a déjà tout. Et d'ailleurs, souvent, on dit que dans le premier roman, c'est pour ça que pour moi, la figure de Denis reste très importante. Parce que justement, je pense que dans mon premier roman aussi, il y avait déjà un peu tout. On dit qu'il y a tout dans le premier roman. Et je pense que là, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que toute l'œuvre est déjà là, quoi. Ce roman-là résume tous les autres. Et d'ailleurs, au départ, ça ne devait même pas vraiment être publié. Enfin, je crois que ce livre a toute une histoire. Moi, je ne l'ai pas lu en premier, mais c'est celui-là que j'emporterai, c'est sûr.
Jean-Paul ?
Oui, ben moi aussi, c'est Spleen en Corrèze. Et c'est toujours vexant de dire à un écrivain que son premier livre est le meilleur. C'est comme si, après, il n'y avait plus rien du tout. Mais ce n'est pas le cas. Mais tout Denis est là. Et il y a aussi, je ne sais pas, peut-être aussi un accent de... Je ne veux pas dire qu'il est insincère ailleurs, mais de sincérité, Et puis il y a quelqu'un qui n'est pas encore tout à fait accompli. Il est en devenir. Il rêve de Paris. Il est à Tulle, la locale de Tulle, etc. C'est voilà. Il y a quelque. On sent que quelque chose va s'accomplir. Et c'est ça que je trouve très beau. Alors, en effet, il avait, je crois, au départ, pas du tout l'intention de publier ça sous la forme d'une chronique. C'est une sorte de journal, là, qui... Hein, lui, il avait écrit ça, une sorte de roman dans une forme de... j'allais dire de continuité, et c'est ça qui est bien, ces notations pendant la journée, ce soir, cette nuit, hein, voilà, il note, et c'est oui, il y a bien sûr une mélancolie, et alors c'est peut-être ça aussi qui résume, on ne peut pas résumer Denis Tillinac, mais vous voyez cette expression le bonheur d'être triste, c'est ça aussi qui résume bien Denis, le bonheur d'être triste. Et c'est contenu là-dedans dans Spleen en Corrèze.
Ben, s'il faut aller sur une île déserte avec un cocotier, moi, je construirai les maisons de famille, pour reprendre le titre de son roman, qui est peut-être le plus ample, le plus ambitieux et le plus romanesque, avec ces histoires de famille, ces générations qui se mélangent. Et c'est un livre qui avait failli avoir le Goncourt. Je pense que Denis aurait bien aimé décrocher cette timbale, et ça aurait été mérité. Et je pense à la fête qu'il y aurait eu ce soir-là. On se serait bien amusé, mais pour moi, c'est son roman le plus réussi. C'est celui où il a mis beaucoup de choses, et toujours avec ce style lumineux, percutant et très mélancolique. Ça, parce que le roman, c'est quand même toujours écrit à l'imparfait. Et il y a cette nostalgie, ce regret du passé toujours chez Denis, et en même temps une vitalité. Et il y a quelque chose, oui, de très français et de provincial, ce qui est un compliment pour moi. Il avait la chance, lui, de connaître à la fois très bien Paris et très bien la campagne. Les paysages sont formidablement bien décrits, les mœurs des gens aussi, la modernité qui est en train de tout changer. Et c'était quelqu'un qui aurait pu écrire un livre en deux allers-retours dans le Capitole, qui n'existe plus, mais à l'époque où il était avec son rond de serviette au wagon restaurant.
Oui, mais alors, oui, c'est, je suis d'accord. Mais il y a aussi le Denis, justement, dans ce livre « Considération inactuelle », ce côté, je dirais, à un moment, il dit « multiplie les leurres et les planques, cultive ta clandestinité, cache ta vie ». C'est ça aussi. Denis, c'est « cache ta vie hein, », c'est un, je crois que c'est un mot d'Épicure, hein, « intimité ». Clandestinité, félicité. Il dit ça à un moment.
Ouais. Ça le résume. Il aurait pu dire aussi pour vivre caché, vivons heureux. Lui.
Il y a le Denis Tillinac des dictionnaires amoureux. Je crois que c'est vous, Jean-Paul, qui en parliez tout à l'heure. Il en a écrit trois qui sont assez représentatifs, quand même, de ces. De ses élans, de ses goûts. Il y avait le dictionnaire amoureux de la France, le dictionnaire amoureux du catholicisme et le dictionnaire amoureux du général, sous-entendu de Gaulle, bien sûr. Est-ce que ce sont trois facettes qui représentent l'équilibre du fond de personnalité de Denis Tillinac?
Bon. Déjà, moi, j'en ai lu qu'un des trois, et c'est pas. En fait, l'entrée par le dictionnaire, moi, c'est pas trop. J'ai pioché dedans, mais j'ai pas su trop comment le lire, donc j'ai lu que. Les trois facettes de Denis, je sais pas, parce que sur le Denis écrivain, je n'ai pas lu celui sur De Gaulle, mais. Moi, sur le Denis écrivain, justement, j'aime tout ce qui se fait en deçà, en dessous, par-delà, et à côté de la politique. Et dès qu'il convoque comme ça des figures. Je revois plus le Denis qui écrit dans la presse, l'autre qui pour moi n'est pas exactement le Denis écrivain. Bien sûr, c'est des facettes d'un même personnage, mais je trouve que le dictionnaire amoureux de la France, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que c'est le seul que je me suis procuré, suffit. C'est déjà, il y a déjà toutes les facettes, à mon avis. En tout cas, ce que j'en ai vu, c'est déjà ça, Denis. Alors, il y a quelque chose de très français, de très terrien. Mais les autres, tant mieux qu'ils existent. Mais je pense que dans celui de la France, il y a déjà sur le catholicisme, je pense que même qu'il y a une entrée sur le général de Gaulle, à mon avis, déjà celui-ci suffit.
Jean-Paul ?
Moi, je pense justement à travers ces trois livres-là dont on parle, il y a quelque chose sur lequel peut-être on n'insiste pas, s'agissant de Denis, c'est, disons, son... Alors, évidemment, son sens de la pédagogie. Hein, on parlait tout à l'heure de la limpidité, et parce que c'est quand même un travail de bénédictin là, qu'il a accompli. C'est très enlevé, mais il y a un travail de vulgarisation énorme, gigantesque. Hein, tu as raison de dire le côté extrêmement travailleur, mais pas laborieux de Denis. Et Denis avait quelque chose que j'admirais infiniment. Entre autres, il avait un sens de la synthèse. Moi, par exemple, mes enfants, il les a connus très très jeunes, il savait leur expliquer un système philosophique, un personnage d'Alexandre Dumas, avec une simplicité. C'était quelqu'un qui savait à la fois transmettre nous donner les enjeux principaux. Moi, je ne suis pas capable. C'est pour ça, entre autres, que j'admirais cette qualité chez lui. Alors, ce sens de la clarté. Hein, il en faut un pour écrire des ouvrages comme cela. Et c'est vrai que quand on lit ce qu'il a écrit sur, je sais pas, le Concile de Trente, c'est lumineux. Et c'est un travail considérable. On sent absolument pas l'huile de lampe.
Oui, c'est un fou d'histoire.
Voilà.
Voilà. Les trois dictionnaires en question, ça forme un tout. Hein. On ne peut pas appeler ça des poupées russes parce que c'est la France pour lui. On soulève un couvercle, il y a le catholicisme, il y a De Gaulle, mais il aurait pu aussi écrire un dictionnaire amoureux de la littérature pour parfaire le tableau. Ça, c'était quelque chose qui appartenait à son imaginaire, à ce qu'il faisait écrire, tout ça, je pense. Pour lui, De Gaulle, c'était aussi un personnage de roman, un héros de son enfance, comme les mousquetaires, mais aussi un personnage très romanesque avec ce destin. Et Denis ne détestait pas du tout admirer, c'est ça qui était merveilleux chez lui. Il y avait des figures qui lui plaisaient. Simenon, pour lui, était un modèle aussi, ce travailleur acharné, cette simplicité du mot, parce qu'on en discutait tout à l'heure avec Jean-Paul, c'est vrai que quand Denis a sorti son Mystère Simenon, Simenon n'était pas du tout bien en cours. Hein. C'était pas SAS, mais presque pour les gens. Du roman de gare. Et Denis a bien trouvé là ce que c'était que l'homme de Simenon. D'ailleurs, c'est une expression qui revenait souvent chez lui quand il y avait une histoire un peu bizarre ou une existence qui basculait. Il disait c'est du Simenon, c'est du Simenon. Et le fait est que toutes les circonstances sont dans les livres de Simenon. Mais je pense qu'on va relire Denis avec un œil neuf et que les générations comme celle de Guillaume vont découvrir un auteur qui est très fraternel, je pense.
Dans quelle filiation vous le placeriez? Quelles étaient les influences littéraires qui drainent son travail et son œuvre littéraire?
Peut-être quelque chose entre Mauriac et Blondin. Mauriac pour les histoires de famille. Le mélange. Et Blondin pour la limpidité, la simplicité du style, l'œil vif. Et je crois que Denis n'en a jamais écrit, mais ce qu'il devait admirer beaucoup aussi, c'est la poésie. Ça n'est pas pour rien que...
Il en a écrit.
Il en a écrit.
Il a publié au Cherche Midi.
J'avais pas vu ça.
C'est très bon.
Et je pense que pour lui,
c'était... Le dernier dilettante, vous dites.
Qui a été publié après sa disparition. Oui, après sa disparition, je crois qu'il a été publié au Dilettante, où il parle. D'ailleurs, il y a beaucoup de poèmes qui ont trait à la mort. Très intéressant.
Ils sont très beaux, ces poèmes.
Oui. Je vais lire ça. Non, parce que je pensais à lui en tant qu'éditeur de Pirotte pendant longtemps. Et on sentait cette proximité, cette admiration pour la poésie. C'est quand même le truc qui peut être le plus... sublime ou le plus ridicule, il n'y a pas d'entre-deux. Là.
Blondin, Mauriac.
Ouais, je crois.
Ouais, moi, j'ajouterais Simenon et Kléber Edens, peut-être.
C'est pas si mal. Hein,
ouais, c'est bien, c'est bien.
Le côté rugby de Kléber Edens.
Adios.
Ouais.
On parle de littérature, mais il me semble que Denis Tillinac était très attaché à une chose évidente, quand on écoute ce que vous dites de lui et qu'on l'a lu, c'est la langue française. En particulier, je pense qu'il y a une entrée dans le dictionnaire de la France. Diriez-vous qu'il était d'abord un amoureux du mot ou d'abord un écrivain de la phrase?
Les deux, mon capitaine.
Je pense que c'était sa manière d'être au monde aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il aurait écrit, on le disait aussi tout à l'heure en parlant, il aurait écrit de toute façon tout le temps, jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Quoi. C'était sa manière de voir, de ressentir. Il s'imaginait pas être au monde sans avoir entre lui et le monde ces mots-là qui lui permettaient de l'attraper, de le tirer à lui, ces phrases qu'il construisait. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à la question, mais je pense que c'était un organe de respiration nécessaire, que la vie était... inimaginable sans l'écriture qui lui servait comme un organe sensoriel en fait à recevoir.
Et les mots bien sûr, mais aussi les bons mots. C'est quelqu'un qui avait le sens de la formule, qui adorait ça, qui pouvait portraiturer quelqu'un en trois phrases, soit assassine, soit élogieuse. C'était quelqu'un de très drôle et de terriblement français encore. C'était l'esprit, la conversation, la convivialité, pour employer un mot qui n'est pas très joli, mais il y avait tout ça et la littérature faisait partie des plaisirs de la vie. C'était pas quelque chose de sacré, d'emmerdant. C'était comme un verre sur la terrasse en face, c'était comme un match de rugby. Ça faisait partie des choses qui rendaient la vie plus intéressante qu'elle le serait sans ça.
Soit le conducteur de tes désirs pas son délégué syndical. Voilà un aphorisme de Denis qui me fait beaucoup rire.
On va dire que cette journée est quand même spécialement conçue pour lui, puisque donc prix de la ville de Brive à ma droite, grand match de rugby tout à l'heure. On reste dans une ambiance très tilinakienne.
La vie n'est pas mal faite, vous voyez.
Et puis le match, c'est Brive contre Paris, en plus.
Ah. Et oui. Oui, l'attachement à Brive de Denis, qui était, comme vous le disiez tout à l'heure, Jean-Paul, extrêmement attaché à cette foi.
Alors qu'il habitait Tulle. Hein.
C'est un transfuge.
Il habitait Paris aussi.
Oui, aussi.
Comment expliquez-vous comme ça le besoin de lieu? Est-ce que c'était un homme attaché à des lieux en particulier, ou est-ce que le territoire était essentiellement son bureau?
Ben, il était attaché à des lieux. Moi, quand j'ai appris ça, son départ, j'étais à Paris et je suis allé prendre un dernier verre au Danton, justement. Dans ses romans et jusque dans les titres de ses romans, on voit bien l'attachement et comment certains lieux, maintenant, pour moi, sont invariablement liés à la présence de Denis, parce que justement, les lieux dans ses romans sont très, très importants, quoi. Mais parfois, on se demande si c'est le même lieu que celui qu'on a vu, qu'on a connu, parce que c'est tellement le sien qu'il y est resté un peu.
Oui, parce que trouver le bonheur à Souillac, il faut être gonflé quand même. Il faut être un romancier. Oui, quand on pense à Denis, on pense à la Corrèze. Mais c'est aussi quelqu'un qui aimait beaucoup voyager. C'était son imaginaire qui se développait. Et je crois qu'il aurait bien aimé être le héros du roman de Schoendorfer, L'adieu au roi, et devenir le monarque d'une contrée lointaine avec des indigènes qu'il aurait adoré. Il aurait instauré une espèce de république ou de monarchie à sa manière, et ça aurait été le paradis sur terre.
Alors Tillinac, le français au sens le plus gourmand et global du terme, mais Elvis Presley, ça fait deux fois, Eric, que vous nous parlez de cela dans les anecdotes que vous nous fournissez, mais voilà, cette passion pour Elvis Presley, d'où vient-elle? Est-ce que vous avez des infos là-dessus?
Sans doute à cause de la musique qui a un peu révolutionné les choses à l'époque. Et aussi pour lui, c'était Elvis, c'était le voyou superbe. C'était quelqu'un qui semait la pagaille, qui avait une légende. Et il fallait voir Denis taper sur un piano à bras raccourcis en chantant, en beuglant presque les chansons d'Elvis. Pour lui, c'était un rebelle. Il aurait pu le mettre peut-être dans sa galerie de personnages à côté de De Gaulle, hein, ça faisait partie des choses qui avaient dû le marquer dans son adolescence. Et ouais, c'était pas Lynn Renault, c'était Elvis Presley.
Mais pas Sinatra.
C'était trop soft pour lui, trop doux, je pense.
C'était un vrai voyou, ouais. Sinatra.
Enfin... Ouais, mais enfin, c'était pas un voyou, c'était un mafieux, c'est pas pareil.
Oui, c'est pas pareil, en effet. Jean-Paul, non, non.
Non, sur les paysages, je crois avoir lu quelque part dans un de ses livres, rien ne m'intéresse vraiment dans la vie, hormis le rugby, l'amour et les paysages. Mais c'est pas vrai, parce qu'il y met bien d'autres choses.
Et l'amitié.
Oui, l'amitié, mais oui, c'est un homme de passion, il avait... Non, il s'intéressait à énormément de choses. C'est très réducteur, là.
Il aimait bien ce genre de formule où finalement on se dit qu'on pourrait en rajouter, parce que sur Elvis Presley, justement, moi un jour il m'a dit « Ma vie n'aurait décidément pas été la même sans Chirac et Elvis Presley ».
Oui, mais... oui,
surtout alors... si Chirac avait chanté du Elvis.
Oui, mais alors là, je crois... Alors, ça aussi, on pourrait en parler, ça aussi, l'ami de Chirac, l'école de Brive. Moi, je pense que tout ça, c'est des paravents. Hein, c'est quelque chose qui lui a servi pour se camoufler, pour se cacher, et il trouvait ça bien commode. Au fond, Denis s'était créé, je dirais, une sorte d'univers parallèle, un peu... un peu enfantin, il revendiquait ça. C'est l'éternel enfant, Denis. Hein, il y a un côté immature qu'il revendiquait absolument. Hein, ne pas être un adulte, ne pas paraître un adulte. Et ça, c'est très important chez lui. Quand on lui disait, quand on parlait de son côté un peu enfantin, mais il acquiesçait et il en rajoutait. Donc voilà, je pense que toutes ces étiquettes-là, encore une fois, il a dit, je crois aussi, cache tes douleurs, cache tes douleurs, cache tes passions. Enfin, oui, se cacher, c'est très important. Je ne dis pas pour tromper, pas pour non, c'est pour se ménager cette
la
vie,
pudeur.
Cette espèce d'enclos où il se sentait à l'aise et qui était un peu son moi profond, j'allais dire inentamable.
Quelque chose de l'ordre de la pudeur.
Oui, enfin, c'est ce qui me reprochait. Oui, Kaufmann, c'est toujours pudique. Non, mais ça, c'est... Mais de toute façon, pour moi, Denis, c'est... Alors là, c'est toujours pareil. On veut parler de l'écrivain et on parle de l'homme. Pour moi, Denis, c'était un faux extraverti. C'était un homme pudique. Et quelquefois, il me reprochait, justement, dans certains de mes livres, il me dit, oui, mais... Tu ne devrais pas parler de ta famille comme ça. Ça, c'est ton intimité, tu ne dois pas en parler. Il était très... je ne veux pas dire que c'était très bizarre, mais c'est quelque chose qui me répétait souvent.
Non, parce qu'on parle un peu du folklore artificiel de Denis extraverti, mais il y avait quand même une grande gravité chez lui, mine de rien. Là. Je me souviens, je ne sais plus où il avait écrit ça, il parlait souvent du cimetière d'Auriac. Et il disait quelque chose comme « ça rassure de savoir où la comédie finira ». Et il y a pas mal de choses dans cette phrase, ça veut tout dire. Quoi. Il sait que c'est une comédie, il sait que ça finira mal, mais qu'en attendant, il faut profiter des choses. Et moi, j'ai appris la mort de Denis par un SMS d'Olivier Frébourg, qui est parmi nous, qui disait « notre Denis ». Et c'est tellement juste comme expression, parce que c'est « notre Denis » et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens dont on a envie de dire notre un tel. Et pour moi, Denis restera toujours mon Denis ou le nôtre.
Avez-vous peut-être des questions à poser ou des choses à partager avec nous ? La pudeur, hein, c'est ce que Jean-Paul Kaufmann décrivait concernant Denis. Alors peut-être qu'on pourrait laisser la place aux mots de Denis Tillinac. Peut-être qu'on pourrait demander à un comédien dont le nom de famille est Ponty, dont je ne me souviens pas le prénom, Philippe, j'allais dire Pierre, Philippe Ponty, qui va s'installer à ma place. Non ? J'ai l'habitude de la donner. Philippe, qu'est-ce que vous allez nous faire partager ?
Bien, ça va être un écho à des choses que vous avez évoquées. Ce sera donc la deuxième préface, 20 ans après, de Spleen en Corrèze. Presque intégralement. Minuit, il pleut sur la ville endormie. Parfois, le bruit d'un moteur casse le silence. C'est une voiture qui passe sur l'ancienne route de Paris. Avant, la rocade n'existait pas. Les camions traversaient la ville en freinant à hauteur de l'ancienne gendarmerie. À de tels détails, on s'aperçoit que le temps n'est pas immobile, même ici, où il coule si lentement qu'on croit l'entendre grésiller. Avant, on se garait gratuitement sur la place de la cathédrale. Les rues du quartier ancien n'étaient pas piétonnières. On les a pavées et agrémentées de bacs à fleurs, pourquoi pas. On a planté en outre un semis de lampadaires orange qui diffuse sur le bitume une lumière équivoque de nightclub. Avant, le département n'avait pas d'hôtel, en sorte que les vanités convergeaient toutes vers la préfecture les soirs de réception. Avant, les clochards étaient sédentaires. On les appelait par leur prénom. Celui qui titube sous le porche vient d'ailleurs et s'intitule SDF, anonymement. C'est un produit de la crise plutôt qu'un bâtard du destin. Avant, le clocher sonnait les quarts d'heure, même la nuit. Ça mettait un baume dans le cœur des insomniaques. Avant, c'était il y a 20 et quelques années, Giscard prenait la pause à l'Élysée. La France séchait sur pied, mais on ne le savait pas. Le maire de Tulle était centriste, le député communiste, l'équipe de rugby invincible à domicile. Désireux de fuir le siècle, j'avais posé mes pénates derrière le clocher de cette localité habillée de gris, ourlée de verdure et qui somnolait entre ses collines. Il se trouve que mes ancêtres ont campé longuement sur un plateau de schiste et de fougères aux marges de la Corrèze et de l'Auvergne. Quand le ciel de mes idées noircissait, je grimpais là-haut. Mon village a la vertu de peindre des aubes dans l'âme avec les pires crépuscules. J'exerçais le métier de localier à l'enseigne de la Dépêche du Midi, le journal toulousain des Ratsoc et des francs-maçons, deux espèces en voie de disparition. J'avais un chef d'agence cancéreux et hors d'âge, un téléscripteur défaillant, un Rolleiflex cabossé, un bélinographe aux rotations inégales et une 4L qui toussait dans les virages. Le pigiste sportif et la secrétaire n'étaient pas jeunes non plus. Avec ce viatique, je couvrais les menus événements qui font la trame de la vie sociale en province. La trame ou l'écume. J'étais le voyeur d'une dramaturgie répétitive, ordonnée par le cycle des saisons. Les cèpes et la rentrée des classes en automne, les arbres de Noël à la fin de l'année, les assemblées générales et les 16e de rugby au printemps, les résultats du bac avant les vacances, les premières courses cyclistes en juin, les premiers comices en août, les fêtes de village tout l'été. Chaque mercredi, j'assistais à l'audience correctionnelle. C'était du Shakespeare matiné de Marcel Aimé. Chaque dimanche, je montais au stade et c'était du Chrétien de Troyes en version occitane. Les avants de Tulle se couvraient de gloire dans le sillage d'Héral, de Fauvel, de Fit, de Rossignol et de Manzoni. J'en oublie et des plus rugueux. Chaque samedi, un météore à lunettes atterrissait sur le plateau de Mille Vaches, Chirac. Comme il était Premier ministre, une nuée de journalistes lui tournait autour en jouant des coudes. À leurs yeux parisiens, nous étions des ploucs négligeables. C'était irritant. Mais enfin, la présence d'un ténor de cet acabit me valait parfois la une de mon journal. Aux dames de Martin Malvy, qui était mon chef de centre à Cahors, et préméditait une carrière politique dans le Lot. Malvy est devenu député, puis ministre. Pas moi. Comment désirer être ministre quand on a enduré tant de vins d'honneur dans des salles polyvalentes et de dépôts de gerbes devant des monuments aux morts? Pourquoi tant de braves gens convoitent-ils un siège de maire ou de conseiller général, une vice-présidence de chambre de commerce, une promotion dans l'ordre national du mérite? À quoi rime cette fringale de titres et de médailles? C'est un mystère que la biologie cérébrale éclaircira peut-être un jour. Il me plonge encore dans la perplexité. Chaque matin, j'allais relever l'état civil à la mairie, puis les avis d'obsèques placardés à la vitrine des pompes funèbres. Chaque soir, je passais à la gendarmerie et au commissariat dans l'espoir d'y glaner un crime. Ils étaient rares. Parfois, on nous instruisait d'un suicide à la Topicine, mais je n'en ai jamais fait état. À chacun sa déontologie. Aussi peu regardante que fut la mienne, elle m'interdisait d'allumer un scoop avec le petit bois des détresses intimes. La nuit tombée, avec ses promesses d'apéros au long cours, on m'appelait de Toulouse pour m'avertir qu'il manquait 200 lignes pour boucler mes pages. J'improvisais un billet sur la crue de la rivière Corrèze qui charriait ses eaux noires sous les fenêtres de l'agence, ou bien j'inventais le passage incognito d'une star d'envergure internationale. Elles ne font pas souvent escale à Tulle, mais nos lecteurs ne pouvaient pas vérifier. J'amenais mon hors-sac rose à la poste et je retrouvais mes copains de zinc au Molière, au théâtre, à la Rotonde ou au Globe. À termes irréguliers, un camion se renversait sur la route de Bordeaux. Un cocu ombrageux canardait son rival à la chevrotine. Il fallait quitter le comptoir, prendre le relais flex, faire démarrer la 4L et se rendre sur les lieux. J'y retrouvais le commissaire de police, le commandant du groupement de gendarmerie, éventuellement le substitut du procureur. Je connaissais tous les officiels, nous nous retrouvions autour des mêmes rituels. C'était rassurant et un peu monotone. Le soir, je hantais les bars pour distraire ma solitude. Elle m'attendait entre les quatre murs de ma chambre, alors j'écrivais en écoutant Elvis, qui n'était pas mort. Les nuits sont longues en province. C'était une manière de journal intime, une humble brocante où des bonheurs sans suite côtoyaient des désenchantements, des exaspérations vaines, des accès de rage métaphysique. Elvis chantait « For the good times », la pluie tombait, la ville dormait. Elle avait le sommeil lourd. Je n'imaginais pas de publier ces lambeaux d'un mois reclus dans une attente sans objet, tel le héros du désert des Tartares de Buzzati. J'étais heureux de vivre en rase campagne, dans le commerce de ces chimères, tout en regrettant que l'histoire avec une majuscule ne m'ait manqué. Quand le bonheur tourne en rond, il peut tourner au vinaigre et engendrer des regrets à l'appel. Il y avait tout ça dans mes notes. L'allégresse des balades sur les routes tortueuses, l'invasion du printemps qui jaunissait les talus et découvrait les jambes, l'illusion qu'ailleurs la vie serait plus mousquetaire, la conscience qu'ailleurs n'est qu'un mirage de poète. Un jour, j'ai osé soumettre ma prose à l'appréciation d'un éditeur. Il s'appelait Laurent Kissel et avait fondé une officine avec un quarteron de gauchistes reconvertis dans la littérature. Tous les anciens gauchistes n'ont pas fini ministre ou écroué pour abus de biens sociaux. Kissel daigna goûter mes pleins et déliés. Il m'exhorta à découper mes notes pour en faire un livre. C'est lui qui a trouvé le titre, Spleen en Corrèze. À peine le livre paru, Kissel a fait faillite. Il est mort quelques années plus tard. En exhumant mon premier livre, j'ai l'impression d'accorder à mon premier éditeur un simulacre de résurrection. C'était un chimérique. Il vivait en littérature comme une carmélite dans le Christ. Il n'aurait pas aimé le tour qu'a pris le négoce éditorial avec tous ses managers cravatés, diplômés et incultes. 20 et quelques années se sont écoulées. Le clocher est toujours là. Il distribue les heures et les ombres. La ville s'étire comme avant, le long de sa rivière. Les jours y sont aussi prévisibles, les nuits aussi longues. Mon chef d'agence est décédé, ainsi que le pigiste sportif qui m'inspirait de l'affection. Le club de rugby a périclité. Chirac s'est installé à l'Élysée. Le député-maire est un ami gaulliste, mais ça n'a pas changé le fond des choses. Les notables continuent de réciter leur rôle sempiternel sur des estrades appropriées. Les localiers continuent de les prendre en photo, à défaut de les prendre au sérieux. Ils ont des appareils plus performants que les miens. Ils tapent leur papier sur des écrans, mais leur tâche est à peu près la même. Au début, les nouveaux me prennent pour un notable sur la foi d'une vague notoriété dont je me fiche éperdument. Les jeunes s'imaginent naïvement qu'à Paris, la matière journalistique est moins prosaïque. Je les déniaise. À Paris comme à Tulle, des fantômes interchangeables s'agitent sur des théâtres pour accéder à cette honorabilité dont s'enorgueillissent aussi puérilement les gros PDG et les petits conseillers généraux. Ce qui se trame aux environs de l'Élysée n'est en rien différent des conflits picrocolins que déclenche un scrutin à la Chambre d'agriculture. Ce qu'on croit imputable à la médiocrité provinciale est à inscrire au débit de la nature humaine. L'ardoise est longue. La ville dont je fus le localier demeure une oasis de rusticité balsacienne. Le monde ancien y résume ses charmes. La modernité avance ses pions sans le claironner sur les toits, et je ne m'en plains pas. Je me suis replié ici en haine du monde moderne. Elvis est mort, mais j'écoute encore ses chansons. J'écoute encore la pluie crépiter sur la vitre en écrivant ce que j'ai sur le cœur. Quand un boutiquier repeint sa devanture, je le déplore. L'immobilité des décors flatte en moi un désir éperdu de permanence. C'est l'instinct de mort qui pousse à la roue des innovations en tout genre. L'aube pointe. Du givre brille sur les tuiles grises. À l'horizon, j'aperçois des vaches rousses sur un pré et le ciel rose pâle derrière. Ces jeux de couleurs n'ont pas changé. Le passage du temps serait-il une illusion ? Le changement, un abus de langage ? Il semblerait que les êtres et les choses soient consignés dans la sphère d'un ressassement qui s'éternise. À Barbezieux, écrivait Chardonne, on ne souffrait jadis que de maux éternels. À Tulle, Corrèze, on ne souffre que d'un spleen inguérissable. 1997, Denis Tillignac.
Merci Philippe Pontier. Guillaume, vous disiez.
Il y a tout dans ce texte-là. C'est vraiment magnifique. Je trouve que... Enfin, j'ai rien à ajouter, en fait, à ce merveilleux texte. Je ne disais rien d'autre que c'est beau.
Et vous avez vu, Denis était tellement gaulliste qu'il commet la même faute de français que de Gaulle en parlant de Carteron au lieu de Quatuor. Un Carteron de sous-ministre, et de Gaulle parlait d'un Carteron de généraux à la retraite ou quelque chose comme ça au moment du putsch d'Alger. Et ça, c'est un détail très émouvant.
Merci à tous les trois. Merci Eric Neuhoff. Merci Jean-Paul Kaufmann. Merci Guillaume Cyr. J'espère que tout ça vous a fait du bien et fait plaisir d'entendre parler de Denis Tillignac et puis de l'écouter, d'écouter ses mots. On continue avec ses œuvres. On continue avec les vôtres aussi, messieurs. Et je vais vous souhaiter à tous une excellente foire du livre.